Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quelles recherches mènent les doctorants ? Pourquoi écrivent-ils une thèse ? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années ? Aujourd'hui, Gwendal Pieguet, doctorant à l'école doctorale STT, Société Temps Territoire, et au laboratoire CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, présente les brigades russes en Macédoine pendant la Grande Guerre. En 1916, un corps expéditionnaire russe participe à la guerre sous commandement français. Il ne reste pas insensible à la Révolution de 17. Des soldats se mutinent, sont réprimés par l'armée française et placés devant le choix de servir dans la Légion étrangère ou de travailler en France ou en Algérie. Les éléments suspects sont envoyés aux travaux forcés. La parole à Gwendal Pieguet.
Je me suis intéressé à l'histoire de la Première Guerre mondiale et à la place de la Première Guerre mondiale dans l'histoire du XXe siècle. C'est un sujet qui m'a occupé pendant mon Master 1, mon Master 2. Mais à cette époque-là, je m'intéressais plutôt à l'histoire de ce qu'on appelle les empires centraux, c'est-à-dire l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, qui étaient des États multiethniques administraient de la diversité au sein de leurs états, de leurs armées. Et du coup, je me posais la question de comment est-ce que ça fonctionne, un état multiethnique qui entre en guerre contre des états-nations. Donc c'est quelque chose qui me posait beaucoup de questions, sans doute aussi parce que, étant bretonnant qui plus est, et qui a fait toute sa scolarité dans une république une et indivisible, ces objets multiethniques où on administre différemment que par un état jacobin la diversité, avaient quelque chose d'assez fascinant. Mais partant de ça, je me suis aussi beaucoup intéressé à la part slave de l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui n'est pas très connue en France, en fait, alors que le front le plus étendu, il est de la Baltique à la mer Noire, et c'est le front russe. Alors que c'est une guerre qui a complètement fait s'effondrer tout un état impérial, et qui a entraîné toute une série de révolutions qui ont changé le visage de l'Europe, alors qu'en France, on était avant le centenaire et avant la grande valorisation de plein de choses, de plein de sujets très différents pendant ces commémorations. C'est quelque chose qu'on connaissait assez peu. À l'école, on voyait surtout Verdun, la Somme, ce genre de choses. Et du coup, j'étais très curieux de savoir ce qui avait pu se passer de l'autre côté de l'Europe pendant la Première Guerre mondiale.
D'accord. Donc, vous avez déplacé la lumière du nord vers le sud, ouais, sur les Balkans. Alors, j'ai présenté rapidement le matériau pour le sujet. Quelle est exactement la question quelles sont les questions que vous posez dans votre travail de thèse, quelles sont vos interrogations, et comment surtout vous les posez de façon à faire un travail d'historien, quelqu'un qui, c'est un travail universitaire, la thèse, c'est pas un travail scolaire, mais c'est un travail universitaire, il y a des canons. Donc comment vous posez vos interrogations pour inscrire votre travail dans la discipline histoire, ouais. Et quelles sont ces interrogations ?
Alors pour revenir un peu sur le sujet lui-même, ça ressemble un peu à une histoire drôle ou à un pitch de film hollywoodien. On est en 1915 et les Français ont un gros problème d'effectifs sur le front ouest. Dans le même moment, les Russes viennent de perdre un nombre considérable de territoires. Ils viennent de perdre la Pologne et tout leur appareil sidérurgique, métallurgique, tout leur outil de production pour l'effort de guerre. Et il y a une sorte de troc qui se met en place. La France va dire, vous nous donnez des hommes, on vous donne des armes. Et le tsar Nicolas II va céder à la France environ 40 000 hommes qu'ils vont envoyer se battre sur deux fronts, le front donc en Champagne, le front ouest, et le front des Balkans, où les Français et les Britanniques interviennent depuis octobre 1915. Et ça ne va pas très bien se passer. 1917 va arriver là, il y a la contestation qui va arriver dans les rangs, et cette contestation va se transformer en une opposition frontale aux officiers russes, donc de la troupe russe aux officiers russes, mais également aux officiers français qui épaulent les états-majors russes qui sont présents sur place. Et on va les retirer du front manu militari, et on va proposer à ces hommes un choix. Soit vous devenez combattant volontaire au sein de la Légion étrangère, d'une Légion russe qu'on va créer dans la Légion étrangère. Soit vous ne voulez pas combattre, mais alors vous pouvez devenir travailleur. Et les fortes têtes qui ne veulent rien entendre, ils vont aller casser des cailloux en Afrique du Nord, ou bien vont rester dans les Balkans pour servir à l'arrière de la zone de front. Et moi, ce qui m'a interrogé assez tôt, c'est cette curieuse métamorphose, ces réemplois successifs des soldats jusqu'à plus soif. En 1915, on veut employer ces soldats pour les envoyer se battre dans les Balkans et en France. Puis, quand ils ne veulent plus se battre, on les réemploie comme travailleurs. Et une fois que l'armistice est signé, la guerre civile continue en Russie. Il y a des généraux russes qui sont exilés en France et qui veulent se servir de ces hommes-là pour les envoyer se battre du côté des Blancs contre les communistes qui ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui encore, dans la Russie contemporaine, on utilise cette histoire de soldats russes qui se sont, pour certains, battus jusqu'au bout, ceux qui sont allés se battre dans la Légion étrangère. Et en fait, le pouvoir russe utilise un peu ce récit-là pour valoriser le fait que, la Russie faisait partie des bons dans le premier conflit mondial. Elle a contribué à la victoire. Il y a même des soldats russes qui sont entrés en Allemagne dans la Légion russe avec les occupants français. Donc voilà, plus ou moins la métamorphose.
On reviendra sans doute sur ce pauvre soldat. Là, une affaire de méthode, le terrain est vaste, géographiquement déjà, mais y compris, pas seulement géographiquement, peut-être théoriquement aussi. Donc comment, à un moment, confronté à la tâche, vous avez 3 ans pour faire votre thèse, vous délimitez, c'est-à-dire vous centrez votre sujet, et comment vous commencez à travailler, quelles vont être vos données, quelles sont toutes les tâches logistiques nécessaires pour commencer un tel travail?
En fait, j'ai commencé par aller consulter les archives de ce qu'on appelle en France le service historique de la défense. Donc, c'est grosso modo les archives du ministère des Armées. Et donc, il est à Vincennes, à Paris. Et il y a là-bas tous les documents qui concernent la prise en charge de ces soldats par l'armée française. Et là, j'ai trouvé un continent documentaire immense, à peu près 200 cartons, gros comme ça, de documents produits par une armée qui, l'armée française comme l'armée russe, adore la paperasse, fait tous les documents duplicata, triplicata, tout ce que vous voulez, donc avec une masse documentaire énorme. Et à la base, je voulais travailler sur tous ces 40 000 hommes, à la fois ceux qui ont été envoyés se battre en France sur le front ouest, en Champagne, près du fort de la Pompelle, dans la région de Reims, et ceux qui sont allés se battre dans les Balkans, en Macédoine, au nord de Salonique. Mais très vite, je m'aperçois que rien qu'avec les documents français sur ces deux armées, sans même y intégrer les documents russes, qui sont encore conservés à Moscou, je vais me noyer. Là, je me suis vite rendu compte que c'était pas faisable. Donc, mais en même temps, je commençais à m'intéresser de plus en plus à ce théâtre balkanique, à la Macédoine. Je remarque en consultant les documents que les Russes qui sont envoyés là-bas, ils le sont aussi parce que la Russie a des vues sur l'Empire ottoman, qui est en guerre à ce moment-là contre la France et la Grande-Bretagne. Elle a des visées territoriales sur des territoires ottomans, à la fois dans le Caucase, mais aussi Constantinople, l'actuel Istanbul. Et donc, avoir des troupes dans la région, c'est intéressant. Parce que politiquement, pour une fois la victoire venue, quand elle viendra, c'est quand même, ça permet d'assurer quelques gages. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas seulement de l'ordre du troc simple des balles contre des hommes, mais qu'il y avait une visée politique, idéologique, et que ça valait le coup d'être creusé pour soi.
Voilà. Oui, là, on est dans la géostratégie. Justement, ma question suivante se pose sur tout le corpus théorique, tout le corpus théorique en histoire, mais vous avez eu un discours de géostratège, de géopoliticien, et il y a peut-être d'autres disciplines qui ont été sollicitées. Avez-vous dû donc sortir un peu de purs travaux d'historien, si oui, pour aller dans quelle discipline et pour en faire quoi, et avec quel éventuellement vertige ou pas, ou au contraire maîtrise dans une autre discipline pour laquelle vous n'avez pas été formé initialement?
Tout à fait. Bon, là, vous l'avez très bien dit, ce que je viens de vous livrer, c'est une vision d'en haut, c'est-à-dire voilà, des grands décideurs qui envoient des hommes sur des cartes sans même trop savoir comment ce sera sur place. Mais très vite, en fait, quand on consulte la documentation militaire, qu'elle soit française ou russe, à Moscou, eh ben, on se rend compte que les rapports ne disent pas tout, qu'ils ne rendent pas compte de la vie dans les campements des soldats, que la documentation française des officiers qui sont sur place bah, s'arrête souvent au seuil de ces campements et qu'on a du mal à... si on en reste à cette documentation-là, on ne va pas comprendre pourquoi ces hommes se révoltent, pourquoi ces hommes décident de prendre les armes contre leurs propres officiers. Et là, j'ai dû mobiliser pas mal de sources annexes, des fonds privés, des carnets personnel, par exemple, j'ai beaucoup utilisé les carnets d'un interprète français qui est auprès des troupes russes et qui traduit les ordres, et qui traduit les rapports, ce genre de choses, et qui raconte ce qu'il voit au quotidien dans les Balkans. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer des descendants de ces soldats-là qui ont conservé des photos de ces soldats, de leurs ancêtres, ou bien des cartes postales qu'ils recevaient. Et j'ai travaillé cette photographie en essayant d'en faire soit une ethnologie, soit une sociologie de ce qui se passait en fait en Macédoine, dans les camps, entre soldats, et aussi bah, de par la photographie, de voir les cortèges de manifestants, enfin de soldats qui manifestent contre les officiers, les assemblées de soldats, et essayer de livrer une analyse visuelle des théâtralités qui avait lieu dans ces moments-là, de voir que bah, quand on passait par l'ethnologie, on se rendait compte que l'assemblée des soldats ressemblait quand même beaucoup à d'autres photographies qu'on pouvait voir d'assemblées de villages en Russie, ou ce genre de choses, et qu'en fait, il y avait des choses inscrites dans le temps long de la vie de ces soldats et de leur famille qui se rejouaient à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qu'on peut faire en analysant des sources qu'on a tendance à présenter de manière comme des sources collatérales, comme des sources annexes, mais elles sont très vite en fait devenues le cœur en fait de mon propos pour comprendre ben voilà, ce moment-là qu'il y a eu, ce pourquoi de ces soldats qui se révoltent, mais qui ne vont pas que se révolter, qui ne vont pas que renverser le pouvoir, mais qui essaient de réinventer un espace qui est le leur, ou dont les officiers sont exclus, et un espace où ben, justement... à l'appui d'autres techniques voilà, qui sont celles de l'histoire propre, même si l'histoire, l'épistémologie de l'histoire, c'est une épistémologie de l'importation. On va toujours chercher ce que font les économistes, ce que font les sociologues, ce que font pour s'armer et mieux comprendre et mieux analyser les documents qu'on a en main.
Une question que je me suis posée, j'essaie de me mettre à votre place, à votre âge, on va dire. Vous avez été en Russie, vous avez été chercher des archives, vous avez été dans les Balkans. Comment vous êtes reçu? Vous êtes doctorant, vous n'êtes pas un chercheur international encore. Comment vous êtes reçu dans un service d'archives à Moscou ou ailleurs?
Froidement, plutôt.
Et comment vous débrouillez avec la langue aussi? Parce que
Ben, en fait, le russe, j'ai commencé à l'apprendre juste avant de commencer ma thèse. En fait, comme je vous disais en préambule, je me suis intéressé... voilà, à l'histoire de la part slave, de l'histoire de la Grande Guerre. Et avant même de signer un contrat doctoral, je m'étais mis à apprendre un peu le tchèque. J'ai vécu à Prague pendant 6 mois et je m'en suis ensuite mis au russe. Et c'est là que j'ai eu un peu le coup de cœur pour la langue. Je me suis dit, ben, ça me plairait bien que mon sujet de thèse soit proche de ces enjeux-là. Et du coup, c'est vrai que quand j'arrive à Saint-Pétersbourg et à Moscou, je suis encore un peu débutant. Et au début, ben, c'est pas toujours évident, d'autant que... Ben, comment dire, vous le savez sans doute à travers les médias ou la presse, la Russie à l'heure actuelle referme de plus en plus ses centres d'archives, alors qu'on a eu une période dans les années 90 jusqu'en 2014 environ, où il y avait quand même une certaine ouverture. On voit de plus en plus des centres d'archives se fermer. Alors moi j'ai eu la chance parce que je travaille quand même sur une période qui est froide et qui n'est pas politiquement si problématique. Si j'avais voulu faire une thèse sur les années Staline, là on m'aurait accueilli différemment et j'aurais sans doute pas eu accès à plein de choses. Mais globalement, arriver dans les centres d'archives en Russie, ben y a une vraie difficulté comparée à la France, c'est qu'il n'y a pas le droit de faire de photos. Il n'y a pas le droit de... Donc on photographie
un texte.
Non, je dois tout recopier à la main, systématiquement. Et,
j'imagine pas, hein, le travail que font
les du coup, voilà, c'est... Mais du coup, ça, c'était intéressant parce que, au contraire des archives françaises où, comme je vous disais, bah voilà, j'ai les 200 cartons sous les yeux, je les ouvre et à la chaîne avec votre smartphone, vous y allez comme ça. Mais du coup, voilà, on se dit, on fera ça plus tard. Et là, ce qui était intéressant, c'est que, ok, j'ai le document, j'ai une demi-journée, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais quelque chose ? Et donc, ça vous force à prendre des décisions vite, mais qui sont certes irrévocables, mais du coup, je pense que j'ai beaucoup plus réfléchi à mon sujet sur mes tables à Moscou que je ne pouvais le faire quand j'étais à Vincennes, dans le confort de oh, « je reviendrai plus tard, je repasserai une commande », etc. Et du coup, la contrainte a quand même mis en place un autre exercice que j'ai été content de faire.
Voilà. Sûrement un système de décision rapide.
Absolument, ouais.
À la fois construit et hasardeux, parce que, comme toute décision. Bon.
Voilà.
Quel autre, parce que là, on voit quand même les difficultés, enfin, à la fois une aventure, oui. Mais une difficulté aussi. Quel autre type de difficulté, à quel autre type de difficulté vous avez eu à faire face pour mener à bien tout ce travail, par exemple pour l'argent, je pense à l'argent, vous avez un contrat, un doctoral, c'est super, mais ça, payer des voyages comme ça, c'est pas si... le budget, ouais.
Ben, en fait, donc, voilà, je l'ai déjà un peu évoqué et vous soulignez une des grosses difficultés pendant tout ce parcours, c'est que non seulement c'est un sujet d'apparence binationale, mais en plus la révolution est passée par là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, de fonctionnaires de l'Empire russe qui ont fui la révolution, de militaires qui ont quitté l'Empire et ils ont emporté leurs archives. Ils sont partis avec armes et bagages au sens propre. Et du coup, quand on travaille sur la révolution russe, c'est à la fois fascinant et difficile parce que vous avez des archives qui ont trouvé refuge à Paris. Bon, ça va encore. Vous en avez d'autres qui ont trouvé refuge en Grande-Bretagne, plus difficile. Et puis, il y en a d'autres qui sont carrément partis aux États-Unis. Et en plus, je travaille sur des Russes qui sont allés se battre en Grèce. Donc voilà, vous imaginez un peu. C'était donc logistiquement, très tôt, il m'a fallu trouver des partenaires, si j'ose dire, entrer en contact avec des centres de recherche qui seraient d'accord de m'accueillir. Alors, par chance, je suis un chercheur français et la France a à sa disposition un réseau de centres à l'étranger qui est encore quand même très garni. J'ai été accueilli, ben voilà, je le disais en préambule, avant ma thèse au CEFRES à Prague, donc qui est le centre de recherche centre français de recherche en sciences sociales de Prague. À Moscou, pour chacun de mes séjours, j'étais accueilli par le CEFR, donc qui est le centre d'études franco-russe. Et quand j'étais en Grèce, c'était à l'école française d'Athènes. Donc voilà, on a quand même la chance en France d'avoir un réseau à l'international qu'on peut solliciter, qui offre des bourses. Pour chacune de ces visites, j'ai demandé une bourse à tel centre, à telle école, qui mettait en plus à disposition ses locaux. Donc sur ça, j'ai été chanceux. Ça implique quand même d'être organisé. C'est-à-dire que vous avez des deadlines, il faut quand même avoir un calendrier assez rigoureux de alors à telle date, il faut que je renvoie le dossier pour Athènes, à telle autre, etc. Et du coup, on passe quand même beaucoup de temps à faire de la paperasse. Et en fait, il faut très tôt s'y former pour que ça devienne un automatisme et que les lettres.
C'est une nouvelle option, hein, pour les doctorants.
Voilà, entre autres. mais voilà, en gros, comment j'ai pu faire pour rassembler les pièces du puzzle.
Vous êtes à quelques jours de la soutenance. J'ai plein de questions, mais j'ai plus que 10 minutes. Puis je voudrais échanger avec le public. Plusieurs questions que j'essaie de mettre en une. Vous avez des résultats, c'est clair. Vous l'avez déjà publié, d'ailleurs. Et il y a une suite. Il y a une suite après la soutenance. Ma question est un peu générale. C'est, on imagine, le doctorant, on se dit, s'il ne veut pas être historien à la fac, qu'est-ce qu'il va devenir ? Enfin, à quoi ça servit, ce travail ? Moi, je vois quelqu'un qui fait des tas de choses, qui a appris des tas de choses, et c'est valable pour tous les doctorants. Donc, question, vous allez être docteur, vous êtes passé par ce parcours assez énorme, avec ce travail gigantesque. De quelle manière ça modifie vos trajectoires professionnelles et qu'est-ce que vous en tirez d'un point de vue professionnel ? Et peut-être un mot sur la soutenance, comment vous l'envisagez ?
Mais en fait, vous l'avez très bien dit, 3 ou 4 années de recherche, ça peut être un parcours extrêmement riche. Si j'ai un conseil pour les gens qui voudraient faire une thèse un jour, s'ils décrochent un contrat doctoral ou quelque chose comme ça, c'est que c'est un espace-temps incroyable dans lequel on peut faire plein de choses. On est quand même assez libre et ça, c'est un écho que j'ai de tous mes mes proches qui sont maintenant peut-être dans l'enseignement supérieur, dans des carrières plus avancées, ils m'ont toujours dit à chaque fois, profite de ta thèse parce que tu as vraiment du temps pour lire, écrire, te former, ce genre de choses. Et c'est quelque chose dont il faut quand même pouvoir profiter. Alors très tôt aussi, je me suis dit, bon voilà, on va pas se le cacher, dans l'enseignement supérieur, dans les années à venir, on va pas ouvrir beaucoup de postes, les débouchés de carrière sont quand même très maigres. Très tôt, je me suis dit, si je me lance dans une thèse, c'est pour faire une thèse prétexte. C'est-à-dire une thèse prétexte à apprendre le russe, prétexte à aller à l'étranger, faire des contacts, prétexte à avoir des activités parallèles. Pendant ma thèse, j'ai intégré par exemple la rédaction d'un site internet qui s'appelle le Courrier d'Europe Centrale. Je suis parti de ton petit conseil de rédaction scientifique où je fais un peu de vulgarisation scientifique, ce genre de choses, et où je suis amené à côtoyer le monde des médias qui est toujours à la recherche d'expertise un peu sur cette Europe centrale, mais encore fort éloignée. Dans nos perceptions, à nos yeux, et cette proche Europe, mais qui reste encore très très difficile à appréhender, pour laquelle les médias cherchent encore des clés de compréhension, des gens qui peuvent leur dire certaines choses, expliciter des rapports de force, des tensions qu'il peut y avoir tantôt entre la Hongrie et l'Union européenne, entre la Pologne et la Biélorussie ou ce genre de choses. Donc j'ai tenté d'en profiter pour me former en russe et sur ces pays-là, mais de passer 18h30 faire autre chose et le week-end faire autre chose que ma thèse, et je me suis plutôt intéressé à cette vie médiatique de valorisation de la culture et de la vie politique en Europe centrale et orientale.
Sans travailler à Pôle emploi, on voit bien que tout ça, ça se monnaie, ça peut donner du travail très intéressant, ça vous pose comme expert, etc. Pour finir, avant les questions, comme dans un film américain, est-ce que il y a des brigades, des personnes, des soldats de ces brigades ont quand même réussi à s'en sortir sans aller à Cayenne, sans aller se faire tuer quelque part?
Alors, l'écrasante majorité de ces soldats, ils retournent en Russie. Ils ont demandé à rentrer. Mais comme je vous ai dit, je suis en contact avec des descendants. Ce sont très fréquemment des descendants français. Certains ont rencontré quelqu'un, ont trouvé un travail, ont refait leur vie en France. Cas de figure assez classique. J'en ai même trouvé en Bretagne, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou ailleurs. Tous n'allaient pas forcément casser des cailloux en Afrique du Nord ou travailler derrière la ligne de front. Certains, les travailleurs volontaires qui voulaient bien être salariés, ont souvent été remplacés, les hommes, dans les fermes françaises, alors que les hommes étaient au front. Et il y en a qui ont rencontré une femme, il y en a qui sont restés en France. Mais en revanche, ce que je vous disais, c'est que l'écrasante majorité a voulu rentrer. Ils sont tous, pour la plupart...
Comment ils ont été accueillis au retour ?
Ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille encore, mais l'accueil a été assez compliqué. La réinsertion a sans doute été complexe pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il leur fallait prouver qu'ils avaient fait la révolution, qu'ils avaient pris part au triomphe du régime qui vient de se mettre en place.
Ils étaient troublés quand même, les années
voilà.
20, c'est terrible.
Et c'est encore une période sur laquelle il faut que je travaille. Je me suis arrêté à leur retour, parce que c'est encore une autre histoire, mais la chose n'a pas été de soi non plus à leur retour.
Il nous reste 5 minutes, il y a 1000 questions possibles, elles sont toutes bonnes, que ce soit sur la méthode, parce que vraiment, je suis impressionné, honnêtement, je suis impressionné par ce travail, qui se termine par un document gros comme ça, qui va être soutenu, qui devient un titre universitaire. Mais ça peut être sur l'histoire, ça peut être sur les soldats, etc. Pour parler, on est à la radio, il y a Radio U qui est là, je le précise, donc il faut absolument parler dans le micro qu'on va vous passer, qui est là. Donc on peut déplacer.
Moi, c'est plutôt une question historique. À la rentrée de ces soldats, l'écrasante majorité rentre en Russie. Est-ce qu'on a des traces de ces soldats en Russie après leur rentrée? Et surtout, juste après donc, la révolution, donc il y a la guerre civile en Russie, est-ce qu'on a des traces de ces soldats qui retournent au combat contre les blancs, ou alors qui se vont du coup avec les blancs contre les bolcheviks?
Alors c'est une très bonne question, et c'est une question que je me suis posée tout au début, et à la base je m'étais posé la question de suivre des parcours dissymétriques entre des gens qui auraient rejoint les rouges et d'autres qui auraient rejoint les blancs. Comme je vous ai dit, des généraux blancs en France tentent de les mobiliser et de les, comment dire, et de les réemployer pour se battre côté blanc contre les rouges. Et il y a beaucoup, il y a certains de ces soldats qui se portent volontaires, mais souvent ils se portent volontaires pour déserter une fois sur place, parce qu'ils savent très bien que c'est un moyen plus rapide de retourner en Russie. Il y a même des cas où ces soldats, une fois arrivés en Ukraine, parce que les navires partaient de Marseille, ils passaient par Thessalonique, la Grèce, Constantinople, et ils remontaient vers Odessa, Sébastopol, et en fait ils débarquent, et on a même un cas du chef de l'unité qui avait été constitué de volontaires blancs, qui a été assassiné par ses propres hommes, qui une fois arrivés sur place, on dit ben non, notre guerre elle est terminée. Et voilà, donc ça c'est un exemple. Certains gradés vont s'engager du côté des blancs. D'ailleurs, le général Diterix, qui commande les troupes russes en Macédoine de ces brigades-là, sera le dernier général blanc avec une armée encore qui debout. Et c'est en fait en Extrême-Orient, pas loin de la Mandchourie. Donc voilà, vous voyez, il y a des parcours totalement différents. Mais quand ils reviennent, sinon, on a des traces de ce que deviennent ces soldats parce que, vous l'avez très bien dit, la Russie des années 20, c'est la ruine économique. Et ben, il faut pouvoir gagner sa vie, mais surtout demander des pensions. Parce qu'on a été soldat, donc on a le droit à une pension d'invalidité, on a le droit à un petit quelque chose. Et donc souvent, on a les archives des courriers de ces soldats qui écrivent pour dire bah, « je me suis battu pendant la guerre », mais qui essayent de dire qu'ils ont fait plutôt partie de ceux qui sont révoltés, ceux qui ne voulaient pas se battre, qui ne voulaient pas obéir à leurs soldats. Et pour terminer, je vous ai dit que j'ai trouvé des traces familiales, des photos, ce genre de choses dans les familles françaises. C'est quelque chose qui est très difficile à trouver du côté russe, parce que viendront les purges staliniennes, et avoir sur soi la photo de papa en uniforme de l'armée tsariste, même si c'était qu'un sous-officier ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de plutôt compromettant. Donc on a beaucoup d'exemples dans des familles, des gens qui me disent « moi on avait des photos, mais on les a détruites dans les années 30 ».
Oui, l'époque était plus que troublée, il y avait des millions de morts. Autre question? Encore une fois, toutes les questions sont bonnes. Et on peut s'interroger, vais-je m'engager en doctorat?
Ici. Bonjour. Vous avez dit que vous avez retrouvé la trace de certains descendants, mais est-ce que vous en avez interviewé beaucoup ou pas? Ou est-ce que ça vous a bien servi pour votre thèse?
Oui, c'est aussi une très bonne question, et en fait c'est le cœur de mon dernier chapitre que je consacre en fait à la mémoire de ces soldats-là. Et je suis allé à la rencontre de ces descendants pour leur demander comment ils avaient entendu cette histoire familiale, comment elle était racontée ou pas, parce qu'il y en a beaucoup finalement, ces soldats-là qui sont dans la France des années 30, leur objectif principal c'est de s'intégrer, c'est de pouvoir rester, et souvent l'épouse qu'ils ont trouvée va interdire au père qui était russe de parler en russe à ses soldats, enfin pardon, pas à ses soldats, excusez-moi, à ses enfants, parce qu'ils ils veulent pas que la famille soit perçue comme une famille étrangère, genre de choses, et souvent il y a un saut, c'est-à-dire que il va pas en parler à ses enfants, mais il va en parler à ses petits-enfants. Ça, c'est un truc classique dans tous les schémas de tradition, de transmission au sein de la famille. Il y a des sauts de génération comme ça qui se font. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de petits-enfants, mais qui sont encore, ils sont plus âgés que moi, et qui m'ont montré des photos, ce genre de choses. Et ce qui m'est apparu de manière assez flagrante, c'est que en France, dans les années 30, il y a très vite une association d'anciens combattants qui va se mettre en place pour valoriser le combat aux côtés des alliés, etc., etc. Et du côté dans le sud de la France, du côté de la Courtine, là où il y a eu une des révoltes, voilà, il y a une association qui va se mettre en place, mais qui va valoriser la mémoire rouge, de ces mutins, etc. Ils vont faire leur association, qui est d'ailleurs très vivante, qui fait une vraie veille de l'actualité, de telle archive qu'on a retrouvée, etc., etc. Mais au milieu, les gens dont les grands-parents étaient peut-être ni rouges ni blancs, étaient juste soldats, voulaient juste rentrer chez eux, arrêter la guerre, ils n'ont pas vraiment de structure ou genre de choses. Et c'est plutôt ces gens-là que j'ai essayé de trouver, d'interroger pour savoir comment à quoi ressemblait cette mémoire non militante, non idéologisée de cette de ce passé combattant. Enfin voilà, je sais pas si ça a répondu à votre question, mais voilà grosso modo ce que j'ai essayé d'en faire. Et mais la chose que j'en retiens, c'est que ça reste, même si c'est lointain, dans la Russie contemporaine, ça reste une ligne de fracture mémorielle quand même, dont les pouvoirs publics savent pas trop quoi faire. Voilà.
On peut prendre une dernière question. Il est 1h, mais bon.
Je me posais la question de savoir, en fait, avant la guerre, qui ils étaient, en fait, surtout les soldats. Est-ce qu'ils venaient de toute la Russie? Et on voit qu'ils ont tous réagi quand même de manière différente, qu'ils se sont organisés. Donc voilà, qui ils étaient avant que tout ça leur tombe dessus, en fait, voilà.
C'est aussi une très bonne question que je me suis aussi posée. Alors, on est à une époque, ces troupes-là sont formées au printemps 1916, à un moment où l'armée russe a subi beaucoup, beaucoup de pertes, et donc l'armée est beaucoup plus brassée. C'est-à-dire que quand la guerre commence en 1914, on rassemble territorialement. La garnison de Moscou rassemble ses hommes, la garnison de Saint-Pétersbourg rassemble ses hommes, celle de Samara, pareil, sur la Volga, c'est que des soldats de la Volga qui sont envoyés au front, etc. Là, on est sur des recompositions qui sont beaucoup plus mixtes. Et donc, en fait, il y a une vraie diversité quand même ethnique et religieuse et confessionnelle dans ces bataillons-là. Il faut quand même dire que majoritairement, c'est des paysans. C'est-à-dire que la troupe, dans son extrême majorité, c'est des gens qui viennent des campagnes d'Ukraine, des campagnes de Biélorussie ou bien même de régions comme la Sibérie ou ce genre de choses. Bien évidemment, l'état-major est plutôt issu soit de l'aristocratie, mais parfois d'une sorte de l'armée par tradition familiale, à une exception près, c'est-à-dire, étant donné qu'à partir de 1915-1916, l'armée russe subit d'énormes pertes, elle doit promouvoir des gens qui sont en fait issus du rang, qui sont parfois des soldats qui viennent d'un milieu urbain, qui savent lire et écrire, qui ne sont pas nécessairement,
merci à Gwendal Pieguet, doctorant à l'école doctorale STT, Société Temps Territoire, et au laboratoire CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Lors de notre prochain numéro, nous aborderons la question du droit européen sur la protection de l'environnement avec Betty Kefelec, juriste et enseignante chercheuse à l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.